Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'entrée des artistes sur le 88.4 de Radio Campus Rennes. L'émission qui s'intéresse aux artistes locaux et à ce qu'ils font, eh bien reçoit aujourd'hui Bertram Wooster, en la présence d'Olivier, qui est son mentor, son maître à penser. Et donc Bertram Wooster sort un nouvel EP qui s'appelle Go Lovely Rose. C'est un projet atypique, un projet qui est porté sur la musique plutôt folk, plutôt lo-fi, et sur la poésie classique anglo-saxonne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une adaptation. On va parler de tout ça avec Olivier dans l'entrée des artistes sur le 88.4 de Radio Campus Rennes. C'est l'entrée des artistes et c'est parti. Je suis avec Olivier, membre de Bertram Wooster. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathias.
Alors tu es avec nous parce que vous sortez un nouvel EP avec Bertram Wooster sur les disques normales qui s'appelle Go Lovely Rose. Vous avez déjà sorti un album au préalable qui s'appelait Poppetry. On va y venir plus tard sur cet album, mais vous avez une démarche relativement étonnante pour un groupe de musique actuelle qui est l'adaptation de poètes anglais classiques.
Tout à fait.
En musique.
Anglo-saxon, on a quelques Américains également.
Anglo-saxon, d'accord. Voilà, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'origine du projet ?
Alors l'origine du projet, comme beaucoup de projets actuels, c'est un projet solo avec un ordinateur à la maison.
Ouais.
On empile les couches, on a des instruments dans tous les
coins. C'est ton projet solo, quoi ?
C'est un projet solo initialement qui date de 2004-2005 à peu près.
Ouais.
Donc, qui coïncide avec l'arrivée sur Rennes. Et donc voilà, face à l'ordinateur, des instruments, on empile les couches et ça fait des morceaux qui commencent à plaire. Mmh. Et notamment grâce au festival Music for Toys à Paris qui ont eu vent de ce projet.
Ouais.
Ça m'a permis de me mettre un peu le pied à l'étrier. Et par ce truc-là, donc d'essayer de trouver des gens pour amener ce projet sur scène. Donc ce projet a pris plusieurs formes de par les années. Et en 2011, je sors Poppetry, donc un projet home studio avec des collaborations amicales.
Ouais.
Et en 2000, suite à cet album-là, on nous propose de faire la starting block à l'Antipode. Mmh. Et donc début 2012, en janvier ou février, je ne sais plus, donc il a fallu former quelque chose, un groupe, il a fallu former un groupe assez rapidement. Donc il y avait déjà eu des essais par le passé, plus ou moins concluants. Mais là, donc en 2011, on fait la starting block et on joue pour la première fois sur scène ces morceaux-là.
D'accord.
Avec une formation qui me plaît bien. Le petit problème ce jour-là, c'était des morceaux un peu trop tranquilles par rapport à la scène. Donc ça a été un petit peu. Ça n'a pas été difficile, ça a été très agréable de jouer. La soirée était très, très sympathique. Ouais. Mais voilà, ça a déjà commencé à poser des questions par rapport à qu'est-ce qu'on veut apporter sur scène. Donc entre des morceaux plutôt mélancoliques et une envie d'apporter des choses joyeuse, de donner le sourire aux gens avec des choses un peu variées, arrangées, etc. Donc là, on était 5 sur scène. On a accueilli, du moins réaccueilli, un collègue avec qui j'avais déjà travaillé avant, donc Eric Brousseau, qui a un projet à lui qui s'appelle Poppy's Dead. Mmh. Donc il est venu nous rejoindre. On s'est retrouvés à 6 sur le projet. Et depuis donc depuis début 2012, on est assis sur ce projet-là et on essaye de concevoir un set qui soit intéressant, un bon équilibre entre mélancolie et entre guillemets festivité.
D'accord.
Du moins essayer de donner le sourire aux gens. Et voilà, on essaie de tourner avec une formation assez importante, avec plein d'instruments sur scène. Et c'est voilà, on essaie de faire tourner ça.
Ok, alors il y a plein de choses qui me viennent en tête par rapport à ce que tu viens de dire. Alors déjà, la première, c'est est-ce que le nouvel EP Go Lovely Rose, il a été aussi, c'est toi qui a tout fait et après vous avez commencé à adapter ou est-ce que vous avez justement travaillé à plusieurs pour le coup ?
Alors le processus a été un petit peu différent que pour le premier album, c'est-à-dire que donc les morceaux existaient, les arrangements n'étaient pas tous composés.
Ouais.
Donc j'avais composé ça à la maison, mais tous les arrangements ont été apportés ou du moins bien améliorés par le groupe. Et donc on a commencé une démarche, sachant que je ne suis pas guitariste, je ne suis pas batteur, ni rien, j'ai pas pu apporter toutes ces...
T'es pas musicien en fait.
Plus porté clavier on va dire.
D'accord.
Et donc ça, j'ai apporté ces parties-là. Les autres ont apporté leurs sentiments vis-à-vis de ça, leurs émotions, leur univers, etc. Vu qu'on vient d'univers assez différent d'ailleurs. Et en fait on a décidé d'aller se mettre au vert pendant 5 jours en Normandie.
D'accord.
Et d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour avoir un instantané, un cliché instantané de notre formation actuelle et de ce qu'on peut proposer le plus proche du live possible.
D'accord, ok. Voilà. C'est ce qu'on retrouve sur l'EP du coup.
C'est ce qu'on retrouve sur l'EP. Donc essayer de voir ce qu'on pouvait faire en 5 jours en faisant vraiment tout en 5 jours. C'est-à-dire l'enregistrement, le mixage, si possible le mastering, la piscine sur place, la charcuterie normande, etc.
Tout quoi.
Tout.
C'est toujours la même démarche. On est toujours dans l'adaptation de poésie, poésie classique anglo-saxonne, comme tu le disais.
Tout à fait, ouais. C'est la même démarche. Sachant que les textes, il y en a beaucoup qui existent. Mmh. Beaucoup apparaissent aujourd'hui avec des auteurs divers et variés. Nous, la démarche, c'est de se dire que de très beaux textes existent déjà.
Okay.
Existent déjà et certains méritent d'être dépoussiérés ou du moins... d'avoir une nouvelle oreille, une nouvelle façon de les appréhender.
Alors du coup, quels auteurs vous avez choisi de mettre en avant sur cette EP ?
Alors sur cette EP, on a donc Edmund Waller, qui, avec Goal of Heroes, qui donne le titre à l'EP. On a du Edgar Allan Poe avec Eldorado, qui est un morceau beaucoup plus calme,
ouais.
Beaucoup plus mélancolique. On a également Edward Lear, qu'on avait déjà mis en valeur sur le premier album. Donc... Edouard Lear est un auteur qui écrit des textes plutôt surréalistes, enjoués, assez fous.
Ouais.
Et il en manque un quatrième, Jacques-Bernard Brunius, qui est assez proche du mouvement surréaliste et qui a fait énormément de choses dans sa vie. Il a été acteur, réalisateur de documentaires et poète. Et donc, qui nous a donné le titre I Love.
Quelle corrélation tu vois entre ces textes choisis et la musique développée ?
La corrélation, c'est, je dirais, la structure musicale, déjà la forme du poème. Je préfère laisser le fond, le significatif, le signifiant à leurs auteurs.
Ouais.
Parce qu'on peut tous avoir une interprétation de chaque texte. Moi, je pars principalement de la forme, de la structure, de la musique, de la musicalité qui peut déjà transparaître au travers d'un texte. Et d'ajouter donc des arrangements qui viennent vraiment de moi. Je m'exprime davantage, et mes musiciens également, donc s'expriment davantage par la musique que par le verbe. Mmh. Et donc nous, c'est de réussir à faire le meilleur accord entre un texte déjà existant, déjà beau, et une musique qu'on espère, pas forcément haut niveau, mais en tout cas qui apportera quelque chose au texte.
Et c'est quoi ? Ça vient d'où cette passion, je sais pas, pour les textes classiques anglo-saxons ?
C'est une coïncidence en fait. Ça a démarré donc avec un premier morceau pour Music for Toys. Là, c'était d'essayer de faire des chansons, de pas savoir quel texte mettre dessus, de faire quelques essais, d'écrire soi-même et de s'apercevoir qu'on n'est pas voilà, qu'on apporte des choses musicalement, mais qu'on les apporte pas autant au niveau verbe.
Ouais.
Et de se dire que voilà, des textes existent. Donc ça m'a permis de découvrir Lord Byron, de découvrir Lewis Carroll, donc en lisant vraiment attentivement Alice au Pays des Merveilles, en allant des choses qui sont vraiment dans l'univers collectif, mais que les gens ne connaissent pas forcément en détail. Donc voilà, je me suis plongé là-dedans, donc Lord Byron, Lewis Carroll, Edouard Lear, Edgar Poe, etc.
Des mecs super drôles, quoi.
Que des mecs super drôles. Lord Byron a eu une vie assez passionnante. C'est sûrement très triste, mais il a vécu des choses assez extraordinaires. Ouais.
Non mais comme tu disais, ça peut être des textes quand même relativement mélancoliques, à quelques exceptions près. Et donc effectivement, les mettre en musique sur une musique qu'on va appeler, c'est difficile à anti-folk, pop, lo-fi, enfin, je sais pas, folk quoi.
Ouais, on a du mal à définir également. Ouais.
C'est pas forcément évident quoi de...
On peut se dire qu'il y a un déséquilibre peut-être entre... des choses un peu guillerettes, avec des instruments jouets, des ukulélés, des toy pianos, etc. Donc une légèreté qui s'adapte peut-être pas à certains textes tristes, mais pour nous ça fonctionne.
Bah voilà, tout simplement.
J'espère que pour les autres aussi. I love sugar but elastic.
Tu le disais tout à l'heure, cette EP c'est un instantané de ce que vous essayez de présenter en live, enfin en tout cas au plus proche de ce que vous pouvez présenter en live, parce qu'évidemment en live c'est quand même un peu différent j'imagine. Du coup on n'est plus du tout dans la même démarche que sur le premier album, finalement c'est quasiment la démarche inverse, là, l'idée c'est de tourner quoi en fait.
L'idée c'est de tourner, oui. En fait initialement c'était pas forcément de sortir un EP, c'était plus de créer quelque chose, plus une démo pour démarcher des concerts. Et de vraiment, comme je disais tout à l'heure, de savoir ce qu'on pouvait faire en 5 jours.
Ouais.
Et donc, on a abouti à ce résultat-là, qu'on a trouvé plutôt convaincant au final. Et donc, ça nous a donné l'envie de le sortir et d'en faire quelque chose d'un peu plus agréable pour tout le monde, pour nous et pour les gens qui nous écoutent.
Ça marche ? Vous avez des dates qui vont tomber, des choses ?
On a des petites choses qui se profilent, ouais.
Ouais, d'accord. Est-ce que sur Rennes, on pourra vous voir en tout cas ?
Alors, on a une date au Gasoline le 6 juin.
D'accord.
Le 6 juin, on essaye de caler quelques autres dates, mais pour l'instant, on a, voilà, pour l'instant on privilégie la musique, essayer de faire la promo de cet album là et puis on va commencer à démarcher. Ouais.
D'accord, donc il est sorti le 24 février. C'est un disque évidemment on peut trouver sur internet, j'imagine, en commandant directement sur les différentes pages du groupe.
Tout à fait, il sera, alors c'est une sortie numérique.
Numérique,
donc sur Bandcamp.
Ouais.
Via les disques normales.
Ouais. Est-ce qu'on aura une sortie physique?
Alors, il y a possibilité de récupérer ça, mais on n'a pas encore mis en place les démarches de vente.
D'accord, donc il faut vous suivre sur internet pour savoir, voilà, quand est-ce que ça arrivera. Ce que tu proposes musicalement, ça ne doit pas être forcément évident d'avoir commencé à composer seul et à arranger tout seul, etc. Et puis finalement d'arriver vers un travail plus en groupe, même si ce n'est pas encore tout à fait ça, plus en groupe quand même.
Je pense que beaucoup connaissent ça, ouais, dans le fait de commencer tout seul et de se créer un univers très personnel et ensuite de le proposer à d'autres gens, même si ce sont, dans mon cas, des amis. Mmh. C'est de proposer une démarche très personnelle à des gens qui acceptent plus ou moins de me suivre dans cette aventure-là. Et surtout, voilà, ce sont des musiciens qui viennent d'univers très différents. En plus, moi c'est vraiment de la pop. Eric, dont je parlais tout à l'heure, c'est également la pop. Mais notre bassiste, c'est davantage le métal. Notre flûtiste et guitariste viennent davantage de la musique bretonne. Donc ce sont des univers.
Et toi, ton univers?
Moi, c'est la pop, hein. C'est les Beach Boys, les Beatles, la musique des années 60 principalement.
C'est marrant parce que c'est des groupes qui, malgré une apparente facilité d'écoute, c'est des groupes qui travaillent beaucoup, beaucoup les arrangements, ça, justement.
Ben c'est ça, mais moi, je me retrouve beaucoup dans ces groupes-là, alors, sans prétention, mais dans le fait d'une musique très accessible, qu'on croit très simple, mais qui derrière cache des trésors de complexité, d'accords étranges, de successions quasi imperceptibles, mais des instruments qui apparaissent, qui disparaissent, des constructions un peu étranges quand on les analyse un petit peu, alors qu'elles paraissent très simples à l'oreille comme ça.
Mmh. C'est ce que tu essayes de faire?
Et c'est ce que j'essaye de faire sur certains morceaux. Ouais.
Je voulais qu'on revienne sur la sélection des auteurs, des auteurs et puis surtout de leurs textes, parce que mine de rien, il y a une base de données, entre guillemets,
énorme,
voilà, dans ce que tu peux puiser. Donc j'imagine que ça demande quand même un sacré temps de lecture et puis aussi de sélection, ou est-ce que tu fonctionnes complètement au coup de cœur et tu te dis, ah bah oui, ça, bien sûr, je vais faire quelque chose avec.
c'est souvent assez immédiat en fait, c'est de se dire bon, aujourd'hui j'ai envie de partir sur quelque chose dans cette idée là. Et donc déjà quand on a l'envie de faire un morceau plus ou moins gay, triste, voilà, forcément des auteurs qu'on filtre. Si on veut aller vers du joyeux, ben, on va peut-être écarter du Edgar Poe. Et donc voilà, on va voir sur internet une liste de textes. On en lit 1, 2, 3, ça va rarement au-delà de 3-4. Et là, on essaie de repérer une structure musicale qui peut coller avec un prémisse de mélodie, ou un prémisse, quelque chose qui peut coller à des accords qui existeraient déjà, qu'on a déjà en tête. Et là, c'est encore, comme je disais tout à l'heure, la structure du texte, davantage que le fond, qui va venir réussir à se marier avec la musique.
La structure du texte lu, la structure du texte parlé.
La structure du texte déjà assez mécanique, déjà vu, même pas lu mais vu. Et déjà ça c'est important sur la. Voilà, un petit peu comme ce que Serge Gainsbourg écrivait ses textes, il mettait en forme, Apollinaire pareil, Lewis Carroll pareil. Quand on voit un texte, on sait s'il peut nous plaire ou pas. Il y a une certaine longueur aussi. C'est difficile de mettre en musique un poème de trois mots, comme peut faire Richard Brautigan ou autre. C'est difficile, donc voilà. Rien que voir le texte, c'est important. Ensuite, c'est le chanter immédiatement. Je le lis rarement.
D'accord.
D'ailleurs, ça me paraît très difficile de déclamer ces poèmes chantés, en fait.
Pour toi, c'est plus une intuition du chant qui vient tout de suite, plutôt que l'idée d'une déclamation mécanique en poésie. Quand on déclame, souvent on se rend compte qu'il y a une musicalité, mais c'est en le déclamant qu'on s'en rend compte, quoi.
Exactement, c'est deux musicalités très, très différentes en fait. La déclamation, ça nécessite une théâtralité qui est assez loin de moi, quoi.
C'est rigolo parce qu'en plus tu dois pas du tout avoir de problème de droit entre guillemets, parce que c'est...
Non, aucun. Enfin, si, ça peut arriver. Dans son premier album, typiquement, j'avais voulu mettre en musique du Robert Frost, qui est un poète américain contemporain.
Ouais.
Aujourd'hui, avec l'EP, donc Jacques Bernard Brunius, dont je parlais tout à l'heure, c'est pareil, il n'est pas dans le domaine public. Donc on essaie de s'arranger, de contacter les ayants droit. Et là, typiquement, sur Jacques Bernard Brunius, là, on est encore dans les démarches. I'm running fast. Stop near the alley of a tree. I can call you this time, but I try to arrive. Not too late, you will be there. No reason to hurry up as fast as I can. I am ready.
As I can, I am ready. Pour changer complètement de sujet, tu le disais, hein, t'es arrivé à Rennes en 2004, ce qui coïncide à peu près avec le début du projet. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'univers musique actuel à Rennes, là, aujourd'hui ?
Il y a beaucoup de choses très, très intéressantes qui se passent. Je suis allé voir dernièrement le concert de The Missing Season 1988, là, pour la release party de leur album. Donc, très, très, très bon concert. À vrai dire, je sors assez peu, du moins pour voir les groupes de la scène rennaise. Donc c'est principalement des concerts plus importants, genre la Route du Rock cet été, enfin important dans le sens taille,
ouais,
pas dans le sens musical. Et, Bah, la scène ardennaise, ouais, je connais bien les noms, j'en ai vu certains en concert, mais on n'a pas de... Enfin, concrètement, on est assez peu proche des groupes de la scène, parce que voilà, c'est un projet amical, ouais, principalement, et qui ne bénéficie pas de liens avec des musiciens qui font la scène actuelle aujourd'hui.
D'accord.
Donc, difficile d'en parler
en tant que groupe, par rapport à la ville de Rennes.
En tant que groupe sur la façon de faire des concerts, etc.
De travailler, ouais.
Faisons travailler. Alors déjà, sur les répétitions, on a la chance d'avoir notre local à nous. Mmh. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y en a pour d'autres groupes.
C'est plus compliqué, c'est, des
c'est,
fois, ouais.
C'est plus compliqué. Il n'y a pas suffisamment de place pour le nombre de groupes. Après, sur la difficulté de trouver des endroits où jouer, oui, ben ça, on s'y confronte de plus en plus, c'est qu'il y a de moins en moins de lieux. On aime bien jouer dans les bars, mais voilà, il y en a de moins en moins qui y accueillent. Il y a deux ou trois bars qui possèdent des sous-sols qui sont moins embêtés que les autres et dans lesquels c'est encore agréable de jouer.
Comme le Gasoline, par exemple.
Comme le Gasoline, comme la Lanterne.
Même si vous avez risqué d'être un peu serré quand même à 6. Mais...
On l'a fait à 5. Ah. On est à 6, on va essayer de le mettre dans un coin, ça devrait aller.
D'accord.
Et ouais, non, c'est difficile. Alors après, on a bien sûr eu l'occasion de jouer au Jardin Moderne, à l'Antipode, à l'Ubu il y a longtemps. Mais voilà, une fois qu'on a fait ces salles une fois, c'est difficile de le refaire rapidement derrière. Donc voilà, on a vite fait le tour. On a vite fait le tour.
D'où l'idée de vous exporter et de tourner, je pense aussi, non ?
On aimerait, on est allé jouer à Paris donc deux fois l'été dernier.
Ouais.
Donc j'y suis retourné en solo pour la je ne sais plus combien, édition, la cinquième je crois, édition du festival Music for Toys.
Donc tu es devenu un résident ?
Quasiment. Ben, on y croise des gens très 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 très, très intéressants, très sympathiques.
Ouais.
Et également en off du festival de Luma. Ah. Donc on a réussi voilà, à transporter ce groupe de 6 personnes pour un petit concert à la fête du Luma qui était compliqué niveau temps, mais, mais très chouette sinon.
Quand tu dis jouer en solo, ça veut dire que tu peux jouer en solo ?
C'est très rare. C'est un projet que j'ai en tête de plus en plus. Mais c'est pas évident, vu que c'est un projet initialement qui est luxuriant, qui a beaucoup d'instruments, beaucoup de lignes mélodiques, etc. Le jouer tout seul, c'est difficile. Mais on s'aperçoit, on parlait de la scène rennaise, il y a beaucoup de lieux comme les médiathèques qui peuvent être intéressés par ce genre de projet, mais qui n'acceptent pas forcément des grosses structures avec batterie, avec ampli, etc. Donc voilà, l'idée est en train de germer, d'essayer de rôder davantage un projet soit solo, soit duo ou trio.
D'accord, ok.
Donc en parallèle, quoi, pour avoir les deux systèmes.
Ok, bah écoute Olivier, merci beaucoup. Bertram Wooster, donc l'album l'EP Go Lovely Rose vient de sortir. Je vous conseille d'aller découvrir ça sur Bandcamp ou via Facebook, etc., etc. Et puis donc on te suivra en concert donc, le 6 juin hein, au Gasoline.
Pour l'instant, ouais.
Pour l'instant.
D'autres dates suivront.
Ouais. Et d'autres dates suivront. Merci beaucoup Olivier, à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci à tous d'être restés avec nous dans cette entrée des artistes sur Radio Campus Rennes. On a donc passé une demi-heure en compagnie de Bertram Wooster et de sa tête pensante, Olivier. Donc je le rappelle, le disque s'appelle Go Lovely Rose. Il est sorti sur le label Les Disques Normales, vous pouvez le retrouver sur internet pour l'instant. Et plus tard en physique, sachez une petite info de dernière minute que Bertram Wooster et ils seront les invités de l'Écho du Once le 2 avril, histoire de découvrir le projet en live au Once Pub. Et puis sinon... sachez que vous pouvez retrouver toutes les infos de cette émission sur le www.radiocampusrennes.fr, rubrique programme onglet entrée des artistes. Nous on se retrouve le 11 mars 2014 pour une nouvelle émission. Très bonne continuation sur le 88.4 de Radio Campus Rennes. Ciao !